acclame, ô Jésus, tu es souverain.
Nous te louons, Seigneur, pour cette belle parole. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous te louons pour ce rassemblement qui nous unit sous ton regard. Et nous te louons aussi pour la bénédiction que tu as promis de nous accorder. La bénédiction de ta présence. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La bénédiction de la vie que tu promets de faire descendre sur ceux qui se réunissent en ton nom. Et comme le psalmiste, nous te disons ce soir, ah, qu'il nous est agréable d'être ensemble. Oui, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, parce que c'est là qu'est donnée la bénédiction. Nous te la demandons riche et abondante sur ton serviteur, que l'onction de ton esprit repose sur lui, que ta parole soit cette épée qui pénètre jusqu'au plus profond de l'être et qui accomplira ton œuvre pour la seule gloire de ton nom. Une œuvre spirituelle, une œuvre de régénération totale, une œuvre physique aussi, comme tu le promets, parce que tu es riche. Gloire à ton beau et merveilleux nom, Seigneur. Et bénis aussi notre communion, cette Amen. Communion entre assemblées. Nous nous réjouissons, Seigneur, et nous te bénissons de nous avoir donné cette occasion. Nous savons que cela t'est aussi agréable, et nous nous en réjouissons. Que ton saint nom soit béni. Que chacun puisse se sentir à l'aise et heureux en ta présence. Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous t'adorons, nous te glorifions, car tu en es digne. Tu as payé le prix pour que nous soyons libres, rachetés, délivrés de la main du malin qui nous tenait captifs. Tu es venu faire tomber nos chaînes. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu nous as rendus libres. Merci, Seigneur, pour ta compassion divine qui se manifeste à notre égard. Tu es venu pour nous faire du bien. Tu es venu nous rencontrer. Nous t'avons réjoui le cœur. Imparfaitement, Seigneur, certainement. Mais, Seigneur, de tout notre cœur, nous l'avons fait. Et tu veux maintenant nous enseigner, nous parler, nous éclairer, nous conduire toi-même, afin que ta seule volonté se fasse. Seigneur, nous sommes devant toi, je suis devant toi aussi. J'ai besoin du secours du Saint-Esprit, car sans le ministère du Saint-Esprit, je ne peux absolument rien faire. Et nous ne pouvons rien faire, Seigneur, ainsi que ton Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Merci pour tout ce que tu vas faire encore. Notre attente est en toi. Et d'avance, nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Restons dans cet esprit. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Il a, lui, un plan pour cette soirée. Et son plan est le meilleur, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de beaux discours dont nous avons besoin, mais c'est de l'action de son Saint-Esprit dans nos cœurs, n'est-ce pas vrai? Ainsi, soyons ouverts, tout simplement, et au travers de notre faiblesse, le Seigneur peut puissamment se manifester. Laissons-nous conduire par lui. Laissons-nous conduire par la main ce soir et les soirées qui viennent. Et je suis sûr que le Seigneur veut faire beaucoup de choses au milieu de nous. que son nom soit béni. Amen.
Amen.
Alléluia. Nous allons nous laisser conduire après le message, comme le Seigneur le voudra. Mais je voudrais apporter quelques paroles sur le sujet peut-être le plus important à l'heure actuelle, le sujet de la famille. J'aimerais qu'on lise un psaume que vous connaissez bien, le psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Retenons bien ce premier verset. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront point confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Si l'Éternel ne bâtit la maison ou la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Plus que jamais, cette vérité est d'actualité. Si l'Éternel ne bâtit le foyer, votre foyer, mon foyer, pas seulement les foyers dans le monde, pas seulement les familles dans le monde, ils n'ont pas l'Éternel. Ce n'est pas étonnant que ça n'aille pas, n'est-ce pas vrai? Mais le mal aujourd'hui est que les foyers chrétiens commencent à trembler, commence à se fissurer. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et malheureusement, beaucoup de foyers chrétiens, beaucoup de familles chrétiennes se conforment à la mentalité du siècle actuel concernant la famille. Et c'est à cause de cela qu'il y a tant de ruines et tant d'échecs. Plus que jamais, nous avons besoin de fonder nos foyers sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus. Et quand nous parlons de la famille, je ne parle surtout pas comme un spécialiste qui parle à des élèves ou un professeur qui parle à des élèves. Je suis un élève comme vous, un papa comme vous, et j'ai les mêmes problèmes que vous, les mêmes tentations que vous. Mais la vérité qui doit être découverte est celle-ci, c'est que bien souvent, lorsque nous parlons de ces choses, on dit « Ah, j'espère que ma petite femme qui est à côté va bien écouter. J'espère que mon mari qui est à côté ouvre bien les oreilles. Parce que c'est quand même à cause de lui que ça ne va pas actuellement. » Je lisais le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il avait fait une mission dans une église. Ça se trouvait à Chicago, là-bas. Il se passe beaucoup de choses à Chicago. Et il avait apporté toute une série de belles réunions, d'édifications, où il parlait des relations du chrétien avec son Dieu. Et à la fin de la mission, une dame s'est levée dans l'auditoire et a commencé à dire, combien elle bénissait le Seigneur pour ces merveilleuses réunions, où sa relation avec Dieu a été fortifiée. Et vraiment, elle remerciait le Seigneur de ce que ça lui avait fait beaucoup de bien. Et alors, au moment où elle s'asseyait, le prédicateur s'est adressé à elle en disant « Excusez-moi, mais vous dites que ça vous a fait du bien dans vos relations avec Dieu, mais est-ce que ça vous a aussi fait du bien dans vos relations avec votre mari? Est-ce que quelque chose a changé à la maison? Est-ce que vous êtes plus gentil avec votre mari? Est-ce que vous criez un peu moins à la maison ?» Et pendant que le prédicateur était en train de lui parler, tout à coup, le prédicateur sent que quelqu'un lui tire par la manche, là. C'était la femme du pasteur qui s'était levée, et c'était son mari qui lui tirait la manche du pasteur, du prédicateur, et qui disait gentiment à son oreille, « Continue, continue. C'est exactement ça qu'il faut dire. Continue. Là, tu es en train de taper sur le bon clou. Continue. » On est un peu tous comme ce pasteur aussi. Hein? On dit, « Seigneur, continue de parler à ma femme. » Mais nous-mêmes, on n'a pas grand-chose à changer. Si nous voulons que quelque chose change, nous devons changer nous-mêmes. Et laissez-moi vous dire une chose. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai beaucoup de choses ici, vous voyez, j'ai un paquet de choses, mais on va s'attendre au Seigneur. Écoutez-moi bien. Savez-vous que une vie d'église dépend de la vie des familles? Nous mettons beaucoup l'accent sur l'église. Et c'est vrai, la Bible en parle, n'est-ce pas vrai? Mais nous mettons très peu d'accent sur la famille. Et moi-même, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. Et bien souvent, lorsque je parle sur la famille comme cela, on vient me aussi tirer la veste en disant, « Frère, on n'entend pratiquement jamais des messages comme ça dans l'église. Ce n'est pas que je prêche mieux qu'un autre, pas du tout, mais des messages sur la famille. » Et je suis surpris. Peut-être que maintenant, ça commence un peu à venir, mais dans certaines églises, on n'entend jamais parler de la famille. Et laissez-moi dire une chose qui va peut-être faire trembler quelques-uns. Puisque l'église ne s'intéresse pas à la famille, puisque même dans beaucoup d'églises, il faut y être tous les soirs à l'église, comment est-ce qu'il faut s'occuper de sa famille? Puisqu'il faut y être tous les soirs, et si vous n'y êtes pas, vous êtes un mauvais chrétien. Et si vous y êtes, vous êtes un bon chrétien. Mais à la maison, qui va élever les enfants? À la maison, qui s'occupe des siens? Le comble de l'ironie est ceci. C'est que l'Église qui devrait bâtir la vie de famille, bien souvent, c'est elle qui détruit la vie de famille. Et je connais beaucoup d'églises qui détruisent la vie de famille. On dit, oh, mais c'est quand même pas l'Église! Alors là, vous exagérez un petit peu. Là, vous allez un peu trop loin. Je ne vais pas trop loin. On dit, c'est le diable! Bien sûr, c'est le diable. C'est la mentalité de ce siècle, bien sûr. Mais dans beaucoup d'églises, la vie de famille n'est pas respectée. La preuve, c'est que vous devez être constamment aux réunions. Et c'est un chrétien. Devez constamment aller à toutes les réunions. Dites-moi, qu'est-ce qu'il ferait chez lui? C'est pour ça qu'à la maison, ça rouspète. La petite femme ou le petit mari est à la maison, et puis alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de vie de famille. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui doit être équilibré dans ce domaine-là? Et moi-même, dès le début de mon ministère, le Seigneur a mis les points sur les i dans ce domaine-là. Lorsque nous sommes rentrés d'Afrique en 70, Le Seigneur a commencé à ouvrir les portes un peu de partout. Et une fois, je suis parti 3 semaines. Je suis rentré à la maison 1 semaine et je suis reparti de nouveau 3 semaines. Mais quand je suis rentré à la fin de ces 2 fois 3 semaines, mon fils Jonathan, je le regardais bien, mais Jonathan a dit à ma petite femme, « Qui c'est ce monsieur ?» Il était tout petit encore. Mais vous savez que cette parole-là est allée droit au cœur. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux bâtir ton ministère sur un bon fondement, il faut que tu t'occupes des tiens. Il faut que tu ne négliges point ta vie de famille. Et depuis ce jour-là, avec la grâce de Dieu, combien d'invitations j'ai dû rejeter. Les appels viennent de partout, mais je dis, excusez-moi, j'ai plus le temps maintenant. Je dois m'occuper aussi de ma famille. Et ainsi, il y a eu un rééquilibrage complet dans mon propre ministère. Et je bénis le Seigneur parce que ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. Spécialement mon aîné qui est Priscilla, qui a 17 ans maintenant, elle était très attachée à moi. Et je savais que si je n'avais pas équilibré ma vie de famille, eh bien, elle aurait très mal tourné. Et à plusieurs reprises, le Seigneur m'a montré à la maison que si je n'avais pas été là, elle aurait suivi un autre chemin. Mais j'étais là juste au bon moment. Mais si je n'étais pas là, elle prenait une mauvaise direction. Le Seigneur m'a montré. Et des faits ont été là. Mais parce que j'étais là, au bon moment, eh bien, l'ennemi n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Dans quel lieu est-ce qu'on voit si quelqu'un est un bon chrétien ou pas? D'après vous, c'est où? Pour beaucoup, c'est à l'église. C'est à l'église. À l'église. Vous savez, à l'église, on peut chanter comme un ange. On peut prêcher comme un apôtre. On peut prophétiser comme un prophète. Et aller à la maison, c'est plus du tout la même personne. Le véritable test de votre vie chrétienne, de la mienne, il est pour cela, il n'y a aucune exception. Chaque chrétien, chaque prédicateur, tous, le test de notre véritable spiritualité chrétienne se voit à la maison. Peu importe qui vous êtes à l'extérieur de la maison, peu importe votre renommée à l'extérieur de la maison, peu importe votre réputation à l'extérieur de la maison, peu importe si on se courbe devant vous à l'extérieur de la maison, ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous êtes à la maison. Amen. Amen. C'est là que se voit le véritable test, mes chers amis. C'est là que les masques tombent à la maison. Un prédicateur un jour prenait l'avion et comme d'habitude, il avait toujours l'habitude de témoigner. Il s'est assis à côté d'un homme qui était un homme d'affaires. Et après avoir parlé d'affaires, il a commencé à essayer de lui glisser quelques mots sur le Seigneur. Et à partir du moment, au moment où il a entendu parler du Seigneur, cet homme lui a dit, « S'il vous plaît, taisez-vous, je ne veux pas entendre parler de cela. » Le prédicateur a été surpris. « D'accord, je ne veux pas vous parler, d'accord, puisque vous ne voulez pas que je vous parle du Seigneur, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas insister. Mais je voudrais quand même savoir pourquoi vous ne voulez pas que je vous parle du Seigneur. » Et cet homme a ouvert son cœur. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, « À la maison, mon papa aussi, c'était un homme d'affaires. Et il passait tout son temps, à gauche et à droite, à rendre son témoignage. Mais il ne s'occupait pas de nous à la maison. La maman aussi. Elle aussi, elle avait des responsabilités, dans un cercle par-ci, dans un club par-là.
Mais personne ne s'occupait de nous. Ils étaient plus occupés à sauver les âmes des autres que les âmes de leurs propres enfants. Et il a dit, nous sommes 4 enfants dans la famille, et aucun de nous ne veut du Seigneur. Nous ne voulons pas d'un Seigneur qui détruit la vie de famille. Et il a dit, s'il vous plaît maintenant, ne me parlez plus de cela. Est-ce qu'il a raison ou pas?
Il a raison.
Bien sûr, cela n'est pas un tort, vous comprenez bien. Ne comprenez pas mal ce que je vous dis. C'est bien de rendre témoignage, n'est-ce pas vrai? C'est bien d'avoir des activités dans l'église, n'est-ce pas vrai? Ne tombons pas dans l'autre extrême maintenant. Mais il y a des priorités à respecter. Et c'est quand nous sommes fidèles à la maison que Dieu nous confiera d'autres responsabilités dans l'Église. Amen. C'est pourquoi un bon père de famille fera toujours un bon serviteur de Dieu. Mais un mauvais père de famille ne fera jamais un bon serviteur de Dieu. Même s'il parle bien, même s'il a de l'éloquence, même s'il a des dons. Comment quelqu'un qui n'est pas fidèle à sa première responsabilité peut-il être fidèle à autre chose? N'est-ce pas vrai? C'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit, en parlant des responsables, et cela est valable pour tout le monde. Il faut d'abord qu'il dirige bien sa propre maison. Il y en a qui sont spécialistes pour diriger la maison des autres. Ah, ils sont spécialistes! Ah, ils savent toujours comment il faut faire chez les autres. Ah, je vous conseille de faire ça. J'ai lu tel bouquin, je vous conseille de faire ça aussi. Oh, vous savez, j'ai fait de la pédagogie, de la psychologie, j'ai fait toutes ces choses. Ah, je vous conseille de faire ça. Ah, ils sont champions pour dire ce qu'il faut faire aux autres. Mais ils sont incapables de se l'appliquer eux-mêmes. Et dites-moi, quelqu'un qui dit aux autres quelque chose qu'il ne fait pas lui-même, c'est quoi? C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Bien sûr, nous pleurons sur les foyers qui se détruisent dans le monde. Et il y a de quoi se lamenter, n'est-ce pas vrai? Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a de quoi se lamenter encore d'autant plus dans les foyers chrétiens. Car beaucoup, au nom du Seigneur, détruisent leur foyer. Au nom du Seigneur. Mais je fais ça pour le Seigneur. Mais c'est pour le Seigneur. Je n'ai pas le temps de m'occuper des miens. Le Seigneur s'en occupera. Ah bon? Ah, c'est comme ça que ça marche? Ton premier travail, ta première responsabilité, avant le ministère, avant le service de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est la famille. C'est la famille. Et je sais que cela peut nous faire bien réfléchir. Et il vaut mieux bien réfléchir maintenant. Il vaut mieux sortir de son sommeil maintenant. Car il est encore possible de réparer les pots cassés. Écoutez-moi bien, mes amis. Dans la Bible, il y a des priorités, n'est-ce pas vrai? Et si nous ne respectons pas ces priorités, c'est à nos propres risques. Et ces 3 priorités sont importantes, là je vous les donne maintenant, car tous ceux qui ont interverti ou négligé ces priorités se sont tôt ou tard cassés le nez. Et leurs foyers sont passés par des épreuves incroyables. La priorité biblique est celle-ci. Premièrement, Dieu dans notre vie, n'est-ce pas vrai? Premièrement, Dieu, en toute chose. Deuxièmement, la famille. Et troisièmement, le ministère ou l'église.
Ah, vous dites, mais c'est pas possible.
Comment ça? Ah, mais moi, je mettais tout à l'envers. Combien de personnes ont mis l'église avant la famille? Ont mis leur ministère, leurs activités pour le Seigneur avant la famille. Et la parole de Dieu dit bien qu'un serviteur doit d'abord bien diriger sa propre maison. S'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il diriger l'église du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Si vous êtes incapable, si je suis incapable de diriger les miens, comment pourrais-je diriger les autres? C'est de la folie. C'est du bavardage. Et voilà pourquoi certains enfants se rebellent. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, pas de difficulté, pas du tout. Mais voilà pourquoi il y a tant de confusion aujourd'hui. Il ne faut pas confondre la famille et l'église. Car une bonne famille, une famille saine, produit toujours une église saine. Amen.
Amen.
Mais jamais l'inverse. Une famille qui n'est pas saine ne pourra jamais produire une église saine. Il nous faut toujours aller à la racine du problème. Car nous qui nous rassemblons ici, nous venons d'où? Nous venons de nos familles, n'est-ce pas vrai? Mais nous venons avec nos problèmes. Si à la maison, nous avons fait la tête à notre femme avant de venir ici, vous croyez qu'on peut faire, avoir un grand sourire avec celui qui est à côté de nous? Oui, on peut. On est tellement champion pour les grimaces. On n'a pas besoin de cours pour cela. On est des champions, on est des drôles d'artistes. On n'a pas besoin de prendre de cours pour ça. Mais s'il y a un problème à la maison, alors nous l'apportons aussi à l'église, n'est-ce pas vrai? Nous ne pouvons pas instantanément, en rentrant dans l'église, pouf, comme par enchantement, ah, oh, mais là, t'as touché, tout est changé. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, parce que nous ne voulons pas faire face aux réalités et aux priorités que Dieu nous demande dans sa parole, nous tournons en rond dans notre vie spirituelle. L'expérience a montré que tous ceux qui ont mis, par exemple, le ministère ou le travail pour le Seigneur avant la famille, eh bien, regardez encore si ces ministères ou si ces gens sont encore en train de servir le Seigneur. Il y en a très peu. Très peu. Des gens qui ont des dons, des gens qui ont des ministères, des gens qui ont des capacités. Ah, ça dure un temps, c'est formidable pendant un temps. On se dit, mais c'est formidable celui-là. Un gars comme ça, c'est extraordinaire. Jamais on n'a vu ça. Au bout d'un an ou deux, ça commence à baisser. Et on apprend tout à coup, tiens. Celui-là, il est séparé, sa femme. L'autre est divorcé. En Amérique, là-bas, parmi les prédicateurs, maintenant, ça divorce. Ça se remarie. Allez donc, les chrétiens. On ne s'entend pas avec sa petite femme, on ne s'entend pas avec son mari, pour rien du tout. On divorce. Ça vient ici aussi. Ça vient en Suisse. Ça vient en France. Ça vient, les chrétiens commencent à être contaminés par cela. Si nous voulons paraître devant les hommes, dans l'église, pour dire voilà qui je suis, mais si nous sommes infidèles à la tâche que Dieu nous demande, chers amis, dans le foyer, vous ne tiendrez pas longtemps, je vous dis une chose. Vous ne tiendrez pas longtemps et vous aurez des problèmes incroyables à la maison. Je sais que ce sont des vérités qui ne sont pas faciles à entendre, n'est-ce pas vrai? Mais il vaut mieux prendre un médicament qui nous secoue un petit peu. Ah, mais c'est peut-être notre salut. Peut-être que certains d'entre vous ici, c'est votre salut. Sans le vouloir, vous avez confondu, d'autres aussi confondent, le ministère et Dieu. Le ministère et Dieu, par exemple, ou le travail du Seigneur et Dieu. Alors, mais comment? Alors, si je fais plus que je dois faire, je ne sers plus Dieu. C'est là l'erreur. Il y a une différence entre servir Dieu et servir le ministère. Nous pouvons servir Dieu sans Dieu. Nous pouvons travailler pour Dieu sans travailler avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons tomber dans un activisme incroyable, mais sans Dieu. Sans Dieu. Nous travaillons pour le Seigneur, mais nous ne travaillons pas avec le Seigneur. Il ne faut pas confondre Dieu et le ministère ou le travail qu'on fait pour lui. Dieu doit venir en premier. Notre communion avec Dieu. C'est pourquoi, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. D'où l'importance de mettre toujours Dieu en premier. Dieu, c'est-à-dire notre communion avec Dieu. Notre relation avec Dieu est importante. En définitive, écoutez-moi bien, mes chers amis, dans tous ces problèmes sur la famille, en définitive, il y a une conclusion que nous pouvons tirer, c'est celle-ci. C'est que le problème dans beaucoup de foyers, ce n'est pas toujours un problème financier, ce n'est pas toujours un problème économique ou un problème de travail et de tout cela. Très souvent, le problème est un problème spirituel. Est un problème spirituel. Autrement dit, la vérité est celle-ci. Un mauvais chrétien fera toujours un mauvais père de famille ou une mauvaise mère de famille. Mais un bon chrétien fera un bon père de famille et une bonne mère de famille. Autrement dit, si il y a des bringues à la maison, si on se jette les assiettes, si on fait des matchs de boxe ou du catch pour les autres, nous révélons par là que nous ne sommes pas des bons chrétiens.
Ah, mais c'est pas possible.
Un bon chrétien comme moi? Tout le monde dit que je suis un bon chrétien. Tout le monde dit. Demande à ton mari si c'est vrai. Demande à ta femme si c'est vrai. Demande à tes enfants si c'est vrai.
Vous en demandez un peu trop là. Moi, je demande à ceux qui sont avec moi.
Moi, je demande à ceux qui sont d'accord avec moi. Moi, je ne pose pas des questions à tout le monde. Pourquoi les foyers chrétiens, puisque nous sommes entre chrétiens, n'est-ce pas, ici, pourquoi les foyers chrétiens ne tiennent plus aussi, ou ne tiennent pas, ou tremblent maintenant? C'est parce que notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre vie chrétienne laisse à désirer. Je ne parle pas de vie d'église, ça c'est une conséquence. La vie d'église, c'est un débordement de ce que nous vivons dans la famille. Amen. C'est un débordement. Nos familles devraient être des temples. Amen. Et non pas des foires au marché. Où c'est la bamboula du matin au soir. Autrement dit, le problème est bien souvent un problème spirituel. La croissance ou l'épanouissement de notre famille dépend de quoi? Dépend de notre épanouissement spirituel. N'est-ce pas vrai? N'allons pas toujours chercher midi à 14 heures. Il y a tant d'excuses, n'est-ce pas? Mais le véritable problème est là. Si nous sommes plus spirituels, si nous vivons plus près du Seigneur, si nous sommes de meilleurs chrétiens, nous serons de meilleurs parents, de meilleurs pères et de meilleures mamans, n'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous accrocher au Seigneur, n'est-ce pas vrai? Beaucoup font du travail dans l'église ou ailleurs, comme une fuite, parce qu'ils ont échoué à la maison, ils vont ailleurs. N'est-ce pas vrai? Combien de personnes qui travaillent pour le Seigneur vous posez quelques questions un peu sur la famille, comment ça va à la maison? Oh, excusez-moi, c'est pas le moment de parler de ça pour moi. Pour le moment, c'est pas ça. Toi, on est en train de maintenant sauver des âmes. Alléluia, alléluia. On sauve des âmes maintenant, c'est pas le moment de parler de ça. Depuis que tu m'as dit ça, j'ai mal à la tête maintenant. Oh. Tu m'as contrarié. On n'est pas toujours prêt à faire face à ces vérités très importantes, n'est-ce pas vrai? Mes amis, écoutez-moi bien. Si vous voulez que votre foyer grandisse et s'épanouisse, cela dépend de vous. Vous devez et je dois grandir et m'épanouir spirituellement. Si je suis rempli des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, dites-moi, un papa ou une maman qui manifeste ses dons, vous croyez que ce sera la guerre à la maison? Dites-moi un petit peu. Moi, je vois, je me connais. Je me passe pas aussi de la pommade dans le dos. Chaque fois que j'ai fait de la peine à ma femme ou à mes enfants, c'est parce que je n'ai pas manifesté le fruit de l'esprit. Et chaque fois que je sens l'onction de Dieu sur moi, chaque fois que je sens l'Esprit de Dieu qui est là, je suis comme maté moi-même. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est là, et tout se passe comme sur des roulettes. Mais lorsque le fruit de l'Esprit n'est plus manifesté, je commence à faire toutes les bêtises. On s'énerve pour rien du tout. La moindre parole négative de l'épouse ou des enfants... Vous en sortirez, on ne fera jamais rien de bon avec vous. Avez-vous jamais entendu cela? Est-ce qu'on vous a jamais dit ça? Tu ne feras jamais rien de bon. Et pourtant, jusqu'à ce moment-là, c'était formidable. Et puis d'un seul coup, tu ne feras jamais rien de bon. Voyez-vous, on dit des choses affreuses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et la preuve, le test de quelqu'un rempli du Saint-Esprit se voit à la maison. J'insiste là-dessus, mes amis. Pour moi, peu importe qui vous êtes, à l'église ou en dehors de l'église, ou dans votre travail, peu importe. Même si tout le monde vous loue, ce n'est pas là le test final. C'est à la maison. Un jour, un pasteur s'adressait à notre personne en disant qu'est-ce que tu penses de ce frère là-bas? Alors la personne a répondu: excuse-moi, j'ai pas encore vu sa femme. Quand j'aurai vu sa femme, je te le dirai. Qu'est-ce que tu penses de ce frère? Quelqu'un qui est en dehors de la maison dira: oh, il est formidable. Formidable. Mais j'ai pas encore vu sa femme. Alors, comment va ton petit mari? Comment? Qui? Oui? Eh bien, tu m'en reparleras une autre fois. Hein? Les familles sont en danger, n'est-ce pas vrai? Dans les foyers chrétiens. Le Seigneur peut faire encore quelque chose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Plus que jamais, il nous faut mettre le Seigneur en premier. Être rempli du Saint-Esprit, pas seulement des dons spirituels, mais être rempli des fruits de l'Esprit. Là aussi, que de déséquilibre. Certains manifestent les dons, mais apparemment, ce sont ceux qui manifestent les dons qui sont les plus difficiles à vivre avec. C'est difficile à dire Alléluia maintenant, ça je suis d'accord avec vous. Ça c'est très difficile à dire Alléluia maintenant. Très difficile! Ou alors, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit, je vais vous le répéter. Très souvent, ce sont ceux qui ont les dons spirituels qui sont les plus difficiles à vivre avec. Ah oui. Moi, j'étais le don de rien. Moi, je prophétise. Moi, je parle en langue. Je fais ceci, c'est l'habitude, c'est rien du tout. Toi, t'es un chrétien de deuxième catégorie. Moi, première catégorie, moi. Première classe. Et on ne peut pas leur parler. On ne peut rien leur dire. Les problèmes que Paul avait, c'est avec l'église de Corinthe. Ils avaient aussi tous les dons. Mais ils n'avaient pas tous les fruits, et loin de là. C'est pourquoi notre relation avec Dieu est importante. Non seulement nous devons manifester les dons spirituels, mais nous devons aussi manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit à la maison. À la maison. À la maison. C'est là qu'il faut commencer. Et quand Dieu verra que tu es fidèle là, alors il dira: mon enfant, maintenant, je peux te confier d'autres responsabilités. Mes amis, Dieu veut encore agir. Mais commençons par le commencement. Reconnaissons si nous avons renversé les priorités dans notre vie spirituelle. Reconnaissons-le tout simplement. Si nous disons toujours, comme le pasteur, continue, continue, c'est exactement ça qu'il faut lui dire pour elle, nous n'en sortirons jamais. Reconnaissons chacun personnellement là où nous avons failli. Reconnaissons-le. Et Dieu nous aidera. Dieu peut nous aider à réparer les torts qui ont été faits si nous sommes humbles, si nous sommes bien disposés. Un miracle est encore possible. Amen. Dieu peut encore donner un fondement à ton foyer si tu le veux, si tu veux changer. Mais ne continue pas comme ça éternellement. Que le Seigneur nous aide à mettre les choses à leur place. Et à commencer par le commencement. Seigneur, dans mon foyer, je veux être un meilleur père, une meilleure mère et de meilleurs parents. Est-ce là votre désir? C'est là la chose la plus importante. Et ensuite, le Seigneur conduira plus loin. Mais c'est par là que ça commence. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Courbons-nous quelques instants dans la prière maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous voulons nous laisser sonder par toi. Si tu le fais, Seigneur, ce n'est jamais pour nous détruire, mais toujours pour nous donner un bon fondement sur lequel tu pourras construire une bonne maison, un bon foyer. Seigneur Jésus, tu as des projets merveilleux pour la famille. Et si la famille est bénie, l'Église sera bénie. Et si l'Église est bénie, le monde sera béni aussi. Seigneur Jésus, mais nous ne voulons pas négliger les priorités. Nous voulons commencer par le commencement. Seigneur, aide-nous, aide-moi à être un bon chrétien. Et alors je serai un bon père de famille. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs maintenant et qu'à partir de ce soir, des décisions soient prises pour changer notre façon de faire, pour changer nos priorités avant qu'il ne soit trop tard. Il est encore possible, Seigneur, avec toi, de recommencer si nous voulons tout simplement nous humilier devant toi et mettre en pratique tes principes divins. Seigneur, pose ta bonne main sur toutes ces chères personnes ici et tu veux agir par ton Saint-Esprit maintenant. Je vais adresser un appel car il faut que cela ne reste pas des paroles seulement. Si le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs, si vous voulez inverser les priorités dans votre vie et mettre les véritables priorités divines, alors nous allons prier pour vous maintenant. S'il y a des couples ou des mamans ou des papas qui veulent mettre un fondement nouveau dans leur vie ce soir, c'est le moment favorable. Alors que le Saint-Esprit t'a parlé, viens à lui. Ne dis pas, c'est fini pour moi. J'ai fait tant de mal, j'ai tout fait à l'envers. Non, Dieu t'aime encore. Si tu veux tout simplement t'humilier, il t'aidera. Si tu veux vraiment bâtir ta maison sur le roc, sur le Seigneur, alors un miracle est possible. Alléluia. Je vais demander maintenant au couple ou à toute personne qui, ce soir, veut prendre une décision de mettre ses priorités divines dans sa vie en pratique. Je vais vous demander tout simplement de vous approcher ici et nous allons prier pour vous. Faites-le comme un acte de foi public. Si Dieu a parlé à votre cœur, faites-le. Avant la guérison des corps, il y a la guérison des familles, n'est-ce pas vrai ?
Cela est beaucoup plus important. Et Dieu veut faire des miracles ce soir à ceux qui savent s'humilier tout simplement. Ton foyer en détresse peut être changé. Ou toi, peut-être qui n'as pas spécialement de problème, mais tu n'es pas heureux. Ton foyer, tu n'en retires pas de joie. Tu vis chacun de ton côté, le mari d'un côté, la femme de l'autre. Et les enfants sont là, démunis de parents. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Et pour ton foyer, il veut quelque chose d'autre. Si tu veux que quelque chose change, viens maintenant. Obéis au Seigneur. Et un miracle est possible. Et tes enfants retrouveront un nouveau père et une nouvelle mère. Et la bénédiction de Dieu sera sur toi, sur les tiens. Et au travers de ta famille, Dieu veut bénir aussi les autres familles en détresse. Amen. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser des familles aujourd'hui pour encourager les autres, pour donner un bon fondement aux autres. Mais il faut que ton foyer, ta famille, soit sur un fondement solide. Comment peux-tu aider les autres alors que toi, tu t'écroules? Dieu veut t'aider. Dieu veut tout relever. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques instants maintenant. Et nous allons prier. Restons dans le recueillement encore maintenant.
Du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel, le Tout-Puissant.
Et le Seigneur m'en a fait voir la cause. Et il y a ici des couples qui sont malades. Il y a des fleurs dont l'une est fanée. Elle est lassée. Oui, tu es lassé de ton conjoint. Tu es fatigué, tu es lassé. Tu en as marre de lutter. Tu as l'impression d'être seul. Vous êtes ensemble, mais tu es seul. Lui de son côté, toi du tien. Et le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, pour ce foyer-là. Il veut restaurer ce foyer-là. Il veut te donner un nouvel amour. Oh, ce ne sera pas un acte magique si tu t'avances, si tu viens te consacrer au Seigneur. Tout ne changera pas automatiquement. Mais le Seigneur attend de toi une nouvelle consécration. C'est par toi que cela commence. C'est par toi que le Seigneur veut agir. Toi qui es lassé, fatigué de ton conjoint. Et il y a aussi une dame ici qui a perdu confiance en son mari. Ce sont des choses très secrètes que le Seigneur voit. Et tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Mais le Seigneur l'a vu, il le sait. Et le Seigneur te dit, il t'inverse la question, il te dit, et ton mari peut-il avoir confiance en toi? Tu regardes toujours ton mari de travers. Tu penses que c'est lui, c'est de lui que vient le problème. Tu n'as plus confiance. Mais le Seigneur ce soir veut te redonner confiance. Il veut restaurer ton foyer. Et il y avait aussi des foyers, des fleurs, qui manquaient de bonne nourriture. Les feuilles se fanaient. Parce que ces foyers-là ne lisent pas la parole de Dieu ensemble, ne prient pas ensemble. Il y en a même qui ne prie pas du tout. Et le Seigneur veut aussi restaurer cela. Il veut restaurer des foyers ce soir. Il y a des foyers malades. Il y en a qui n'ont pas de racines profondes. Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière profonde ensemble. C'est juste un peu à table. Juste un peu. Pour avoir la conscience tranquille. Mais le Seigneur aussi vous parle. Et vous dit, mais mettez-moi en premier dans votre vie. Et vous verrez que tout ira bien pour vous, que je restaurerai. Je suis le réparateur des brèches, dit le Seigneur. Ce soir, le Seigneur est le réparateur des brèches. Amen. Des pots cassés, des choses que l'ennemi a détruites, c'est vrai, mais nous aussi, nous avons notre responsabilité pour cela. Nous avons notre part à faire. Et le Seigneur en appelle ce soir à venir comme consécration devant lui. À dire, Seigneur, je veux que mon foyer, qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait une nouvelle communion entre ma femme et moi. Il n'y a pas la communion que le Seigneur voudrait. Parce que une communion avec le Seigneur, c'est une communion où le Seigneur agit par l'un et par l'autre également. L'un n'est pas favorisé aux dépens de l'autre. Et il y a aussi ici quelques jeunes qui ont de la peine à pardonner à leurs parents. Parce qu'il y a des blessures. Le Seigneur veut ce soir bénir ces jeunes, toucher ces jeunes, guérir ces blessures. Mon ami, ma fille, pardonne à ton père, pardonne à ta mère. Tu ne peux pas être heureux ainsi. Honore ton père et ta mère, malgré leurs inconséquences, malgré leurs fautes, leurs faiblesses. Honore ton père et ta mère. Pardonne-leur. Comme Jésus t'a pardonné tes péchés, tu es capable de leur pardonner. Et alors, tu verras qu'il rétablira même les relations brisées avec tes parents. Tu es dans ton coin, tu boudes. Viens à ton Père, reviens à ton Père, le Père céleste d'abord. Et puis, il te redonnera la communion avec ton Père terrestre aussi, avec ta mère terrestre. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de son pardon et de manifester ensuite son pardon à ton tour. Pardonne comme tu as été pardonné. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Alléluia.